Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour, bienvenue à l'émission Ma commune est utile. Donc aujourd'hui, nous avons retrouvé notre ami Alain qui est descendu des arbres.
Oui, bonjour à tout le monde. Mais oui, je suis redescendu de mes arbres. Et donc ça prouve bien que je suis bien maire rural, puisque je suis aussi un chasseur de palombes.
Bonjour Brigitte.
Oui, alors moi je suis les pieds bien au sol.
Donc ben, nous allons commencer cette émission en parlant un petit peu de l'actualité, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de parler des retraites. Et de dire bon, ce qui se passe dans nos communes et comment est le ressenti des populations par rapport à la protection sociale.
Ben moi, je vais aborder ça sous l'angle de la colère, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quelque part, on a besoin de réformes, mais on n'a pas besoin de révolution. Donc je le vois à travers ma population. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant que... on est en train de vraiment changer la donne, et c'est vrai que quelque part, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont subir les conséquences. Donc moi, je soutiens vraiment maintenant les syndicats sur leurs revendications. J'espère qu'on va aboutir. Mais j'ai des craintes, connaissant le président de la République et le Premier ministre qui restent droit dans leurs bottes, il ne faudrait pas que ça dégénère. Je ne souhaite pas ça, mais je souhaite que vraiment on trouve une issue, et il n'y a qu'une issue. C'est qu'ils fassent comme M. Juppé, qui retire leur projet.
Brigitte ?
Moi, j'ai une position un peu plus, je dirais, modulée, dans le sens où je pense que la réforme est utile. Et elle est très utile, parce que jusqu'à maintenant, on a toutes les corporations qui ont pu peser avec les syndicats sur la tranquillité des autres, qui ont acquis
des privilèges
sociaux. Voilà. Parce que tu peux faire grève si tu es chaudronnier ou électricien, ça mène à rien. Par contre, si tu travailles à EDF, que tu coupes le courant, badadao. Si tu es à la SNCF et que tu empêches les transports, badadao. Et idem pour la RATP ou autre chose, ou les transports, puisque je trouvais bizarre, moi, lors des gilets jaunes, que les routiers ne soient pas joints plus facilement à ça. Or, je me suis aperçu, je trouvais un peu bizarre dans l'augmentation du gasoil, que les routiers ne réagissent pas, sauf qu'après, on a appris que, bien sûr, on leur remboursait une partie du gasoil qu'ils payaient. Donc, jusqu'à maintenant, c'était là aussi un privilège qu'on achetait. Et on l'achète de telle façon que maintenant, qu'ils commencent à se dire qu'ils vont payer le prix fort, et ben, ils commencent à vouloir dire qu'ils vont manifester et qu'ils vont bloquer les routes. Et on paye comme ça 50 ans de syndicalisme qui, à chaque fois, a tapé aux endroits et obtenu des privilèges parce que, justement, c'était une des populations qui bloquait le pays. Donc, quelque part... Même si je ne suis pas une... je trouve que la réforme est utile parce que, bon, c'est pas normal quand tu as travaillé 40 ans que tu partes à la retraite avec 1200 euros, que d'autres s'en aillent à la retraite à 52 ans ou à 55 ans, hein, et qu'ils aient le double. Donc moi, ça me gêne quelque part parce que le travail... Et c'est acquis. Alors c'est des acquis sociaux, c'est bien ce qu'on dit. Les syndicats disent on veut pas retourner, c'est des acquis, on doit les garder. Sauf qu'on les a acquis d'une façon, par force... Et que d'autres qui sont plus faibles et qui n'ont rien eu du tout, eux, ils vont partir avec 1200 euros, puis ils n'ont qu'un droit, c'est de se taire. Donc à un moment, moi, chez moi, il y a des gens qui sont très contents de la réforme, et notamment les agriculteurs. Je ne sais pas, vous en avez vous aussi chez vous, hein, tous les deux. Les agriculteurs qui ont 800 euros de retraite par an, eux, ils sont bien contents d'être à 1000. Alors tu vois un peu la différence quand même. Donc il y a des choses qui me dérangent. J'avoue que la façon dont c'est fait, c'est très maladroit, mais tout ce que fait Macron est maladroit. Depuis le début, il devait laver plus blanc que blanc, et puis c'est du blanc cassé ou du gris à chaque fois. Hein, parce que encore on voit bien avec celui qui a fait les retraites et enfin la réforme qui a pensé tout ça, enfin ils voulaient, ce que je dis tout le temps, laver plus blanc que blanc, et puis ils ont pas réussi, et donc là ça me gêne, là aussi ça me gêne, mais il y a quand même un travail à faire dans ce pays. Je sais pas comment il va falloir l'aborder, de quelle façon il va falloir le prendre, mais il y a quand même un problème.
Je vais te le dire, Brigitte,
ouais,
je vais te le dire, moi je suis d'accord pour qu'il y ait des réformes, mais il faut réformer par le haut.
Bien
notre
sûr,
gouvernement et nos gouvernants veulent réformer par le bas. Moi, je suis d'accord pour que les agriculteurs aient 1 000 euros. mais il faut que les autres ne baissent pas. Et aujourd'hui, globalement, c'est tout le monde qui va avoir sa retraite baissée avec ce système-là.
Je suis d'accord.
Alors, les privilèges, bien sûr, mais c'est des acquis qui datent depuis très longtemps. Alors, il y en a certains, on pourrait les revoir. C'est vrai qu'ils peuvent être un peu archaïques, mais dans l'ensemble et dans le général, ces acquis, ils sont quand même importants.
D'accord.
Donc, il y a ça d'une part. Et d'autre part, ce que je voulais dire, mais qu'ils nous donnent l'exemple. Je vais te prendre un exemple. Personne, pas un média n'en parle. C'est par exemple le privilège de nos parlementaires. On n'en parle pas de leur retraite. Eux, leur retraite, c'est pas un privilège. C'est un trou béant dans les...
Ah, mais là, je te rejoins totalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Voilà, donc...
Mais je prenais l'exemple inverse. C'est-à-dire les petites retraites qui sont à 800, 1000 ou 1200 euros. Ben, de nos jours, c'est pas suffisant pour vivre, on le sait bien.
Voilà.
Les salaires sont à 1200 euros. Il faut valoriser le travail dans ce pays. Les gens qui restent chez eux et qui ne travaillent pas, j'en ai pas mal, moi, puisqu'il y a des gens qui louent des maisons et qui me font voir leur justificatif de revenus. Eh bien, tu as des gens qui ne travaillent pas, qui gagnent autant que ceux qui bossent. Donc, à un moment, enfin, je dis gagner, entre guillemets, hein, à un moment, ça ne va pas le faire. Je veux dire, les gens, si on veut que les retraites soient payées, il faut que les gens travaillent et pas qu'ils soient assistés à la maison. Et si on travaille et qu'on a des salaires de misère, eh bien, on ne peut pas cotiser à hauteur des retraites qu'il faut payer.
Alors, juste par rapport...
Toi, tu es syndicaliste, alors vas-y.
Non, juste un petit point d'information, parce que je pense que c'est important quand on dit on va faire bénéficier des gens à la retraite à 1000 euros. Mais la loi, elle existe.
Oui, mais elle n'est pas appliquée.
C'est la loi de 2003
qui n'est pas
appliquée.
Et toutes les
lois.
Donc
ils nous font croire aujourd'hui qu'ils vont faire un plus, alors que la loi, elle a été votée en 2003... et qu'elle n'est pas appliquée. Et ce que propose Édouard Philippe, c'est aller encore plus loin, c'est de l'appliquer en 2025. Ils n'ont qu'à l'appliquer dès aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait en gros 30 euros de plus par mois.
C'est le propre de ce gouvernement de faire des lois et de les appliquer que quand ils seront partis. Enfin, s'ils sont partis, ou la prochaine fois qu'ils seront revenus. Non, mais...
Donc tu vois, c'est tout.
Je vais prendre le pari, je vais un peu exposer ce que je pense. Par rapport à ça, moi, je suis un retraité de l'EDF.
Ah bon?
Donc je fais partie des fameux privilégiés de Brigitte. Aujourd'hui, je vais vous dire, le montant de ma retraite, il est de 2000 euros. Et j'ai 300 euros parce que j'ai eu de plus, parce que j'ai eu 4 enfants. Si c'est ça un privilège, je regrette.
Par contre, t'es privilégié par rapport à ceux qui ont la majorité, qui ont 1000 euros.
Je vais t'en citer d'autres.
Voilà, bon.
Vous avez une députée été députée pendant 6 ans. Aujourd'hui, elle a 1300 euros de retraite à vie. Vous ne pensez pas que le privilège, il est vraiment pas le même?
Je suis d'accord avec toi. Je te parle des travailleurs, je ne te parle pas des autres.
Oui.
Un élu, on sait bien qu'il ne travaille pas.
Je suis pas d'accord avec toi.
Je vais un peu aborder dans le sens d'Alain, parce que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'expliquer. Aujourd'hui, donc, dans la fonction publique, on compte sur les 6 derniers mois, quand on connaît les salaires de certains fonctionnaires qui tournent à 900 000 euros,
on se
voit les retraites qu'ils vont avoir.
Bien sûr.
Dans le privé, on compte sur les 25 dernières années.
25 ans, c'est pareil. Hein,
et donc là, on va passer à 42 ans.
Ouais.
Forcément, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que les pensions
vont baisser. Déjà, tu as travaillé 42 ans, toi?
Oui.
Ben, c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas travaillé 42 ans. Tu finis tes études de plus en plus tard. Et 42 ans de travail, tu finis...
Il faut trouver un patron qui t'embauche.
Et je reviens sur les 1000 euros. Dans le projet de...
Des agriculteurs.
D'Edouard Philippe, c'est 1000 euros à partir du moment où tu as fait une carrière complète, c'est-à-dire 42 ans. C'est-à-dire que t'as pas un gros salaire, c'est des gens qui ont été hachés. Donc aujourd'hui, ils mettent en avant l'histoire que les points vont être comptés par rapport au nombre d'heures que tu as travaillé. Sauf que dans l'ancien système, dès que tu dépassais 151 heures de travail, tu avais un trimestre qui était compté. Aujourd'hui, tu vas voir que des mois. Quand tu auras fait la totalité de tes mois, tu vas t'apercevoir que ta retraite ne va pas être très grosse.
Encore le mois, d'accord, c'est la valeur du point, cette fameuse valeur dont on ne sait rien, qui n'augmentera pas, qui ne bougera pas. Attends, faut arrêter, je veux dire, on sait bien comment ça passe, on sait très bien. Je suis tout à fait d'accord, le système n'est pas bon. Qu'on revoie le système des retraites, moi je suis tout à fait d'accord. La façon dont c'est fait, non. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendraient qu'on puisse réformer les retraites, parce qu'il y en a qui ont vraiment trop peu, par rapport à ceux qui ont acquis, parce que justement, ils avaient la force de le faire. Je ne dis pas que 2000 euros, c'est royal, mais bon, quand tu as 1000 balles, ben, tu as le double d'un seul coup, tu as l'impression que t'as la vie est belle. Hein, quoi. Donc, et qu'on a beaucoup, la majorité quand même, ont des petites retraites. Enfin, moi, tous ceux qui sont autour de moi, ils ont des petites retraites. Hein, donc, et même moi, quand je la prendrai, bon, je me suis arrêtée de travailler, j'ai élevé mes enfants. Bah, je ne vous dis pas, je vais vous faire pleurer, donc je n'ose même pas vous le dire. Donc c'est bon, quoi. Hein,
non, mais c'est vrai que si tu as travaillé toute ta vie
pour,
au SMIC...
Pour en finir, on est tous d'accord.
Qu'il faut
c'est
faire
qu'aujourd'hui, il faut revoir ses retraites, mais en les regardant par le haut, pas par le bas. Parce que
d'accord.
Sinon,
on va
se retrouver avec des pays qui sont en plein développement, comme la Roumanie ou la Pologne, où on va se retrouver avec des salaires de misère. Et déjà, il y a beaucoup de précarité dans notre pays, parce qu'on nous dit que le chômage baisse. Mais ce sont des... Et puis il y a une chose qu'il faut penser. Tous ces salaires de jeunes aujourd'hui qui sont précaires, c'est ces salaires-là qui vont payer nos retraites à nous.
Mais, oui, bien sûr.
Mais ils ne pourront pas nous
c'est
les payer.
C'est pour ça que je te dis qu'il faut revaloriser
qu'il faille le revoir,
travail.
Oui, mais dans le bon sens.
Okay.
Et moi, j'ai envie de caricaturer, parce que ça m'énerve quand je vois un petit peu les gouvernants, nos ministres, comment ils parlent à la radio. Moi, j'invite... ils vont voir avec 1000 euros. Moi, j'invite M. Macron et M. Philippe. Ils viennent passer un mois dans une ferme et qu'ils restent un mois sur le tracteur ou à soigner les vaches. Ils vont voir ce que c'est. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le vrai travail. Le vrai travail, c'est celui-là.
Je suis d'accord. Voilà. Alors, ce que je voulais, moi, spécifier dans mon truc, c'est que c'est encore par les syndicats et par les ceux qui ont eu des acquis sociaux qu'on entend parler du système de retraite. Tous ceux qui, eux, subissent, c'est-à-dire tous les autres... que j'ai pas cité, et qui ont une petite retraite, ceux-là, bah, ils disent trop rien. Hein. Je veux dire, on n'a pas
la... beaucoup dans la rue.
Oui, il y en a quelques-uns dans la rue, mais je veux dire, ils n'ont pas la force d'agir, contrairement aux autres. Voilà.
Parce que les autres sont structurés.
Et les autres, ils sont structurés, mais je reviens là-dessus, ils ont acquis leur... parce que, justement, ils avaient un poids. Voilà,
et c'est vrai qu'aujourd'hui, les salaires sont très bas en France. Il suffit de prendre, par exemple...
Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été augmentés.
Il suffit de prendre ceux des ministres, puisqu'ils sont obligés de travailler à côté, comme M. Delevoye. Ah. Parce que bon, les salaires de ministres ne sont pas importants.
Bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils voulaient laver plus blanc que blanc, et puis finalement, ils sont encore pires que les autres. Non. Parce qu'on attendait tellement de choses d'eux qui déçoivent tout le monde.
Où c'est que le gouvernement aussi, encore, est en train de se faire retoquer, c'est par rapport à cette fameuse prime qui a été un succès. Beaucoup de patrons, l'année dernière, ont pu donner jusqu'à 400 euros à leurs employés. Moi, j'ai trouvé ça admirable.
C'était bien.
Et aujourd'hui, le gouvernement, il a trouvé la méthode pour bloquer cette situation. Et les patrons sont obligés aujourd'hui de maintenir façon administrative, de façon une fois de plus, à bloquer les choses. Et qui c'est qui va en pâtir? Eh bien, ce sont tous ces gens-là qui avaient passé un bon Noël l'année dernière et qui, aujourd'hui, il va leur manquer 400 euros de prime à la fin de l'année. Moi, je trouve ça lamentable.
Non seulement ça, mais on est revenu aussi au départ des gilets jaunes et l'augmentation du gasoil, parce que ça leur a même pas servi de leçon. Je veux dire, l'essence est aussi chère qu'elle était la dernière fois, et puis on continue, quoi. Je veux dire, je sais pas ce qu'on attend dans ce pays pour bouger, mais pour bouger les choses dans le bon sens. Parce que là, on fait tout en dépit du bon sens. Mais je sens les gens, moi, très remontés.
Donc là, nous allons faire notre petite pause et on va reprendre le débat.
Oui, le débat est vif aujourd'hui, c'est intéressant en plus.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc, nous allons continuer notre débat. Nous allons changer un petit peu de sujet. La dernière fois, nous avions abordé avec Brigitte le Congrès national, où le Premier ministre avait parlé de 173 mesures pour la ruralité. Alain, tu as un communiqué à nous dire par rapport à ces 173 mesures.
Alors, ce n'est pas sur les 173 mesures, parce que les 173 mesures, elles sont encore dans les tuyaux. Certaines ne verront jamais le jour, bien sûr. Mais aussi qu'on a quelque chose à dire, c'est sur cette nouvelle loi engagement et proximité, où vraiment là, on se rend compte que le gouvernement nous a pris vraiment pour
des pintades.
Des pintades, je parle au-dessus. Mais je vais vous lire. Je veux que les auditeurs puissent comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais vous lire le communiqué de presse qu'a fait l'Association des maires ruraux de France au niveau national, que moi j'ai envoyé à tous les maires de la Dordogne, et avec un commentaire sur nos parlementaires. Parce que nos parlementaires ont été dans cette loi, je le dis, les porte-paroles de M. Macron. Les porte-paroles. Je veux pas aller au-delà, parce que je serai encore plus méchant. Alors je vous lis ce communiqué. Donc ce mercredi 11 décembre aura lieu la commission mixte paritaire réunissant les députés et les sénateurs pour trancher les termes du texte de loi dit engagement et proximité. Il ressort très clairement que beaucoup de nos collègues, maires, ou que des citoyens intéressés à s'engager n'y trouveront pas ce qui aurait été nécessaire pour répondre à la reconnaissance du rôle des maires dans notre société, au renforcement de la place de la commune dans notre démocratie et dans le développement de notre pays, et à la capacité à exercer dans de bonnes conditions le mandat d'élu local. Alors, pour une raison assez simple, la loi NOTRe, vous savez, cette loi que j'aime beaucoup, plastronne et restera définitivement l'erreur majeure de la décennie. Et ceux qui se refusent à la corriger aujourd'hui, bien sûr les parlementaires, s'en rendent malheureusement complices. Il en sera ainsi, sauf surprise majeure, sur l'emblématique dossier de la compétence eau et assainissement, mais aussi sur d'autres enjeux comme le statut de l'élu, oublié par mégarde, malgré la commande d'un président de la République converti au terme du grand débat. Ceci étant dit, une chose est certaine, la guerre des tranchées a bien eu lieu. Évacuons d'emblée, avec les eaux usées, l'idée qu'au fond de la tranchée se dressent face à face d'un côté les fervents défenseurs de l'intérêt général incarnés par le service public, et de l'autre ceux qui espèrent que derrière les transferts obligatoires à l'intercommunalité, la porte sera plus grande ouverte aux actionnaires des compagnies fermières. Quoique. Sur les questions d'eau et d'assainissement, l'argument principal et définitif de ceux qui n'en démordent pas est celui d'un enjeu environnemental, d'intérêt supérieur qui ne peut que se traiter dans un espace territorial très vaste et de fait, l'obligation du transfert s'impose. Soit, qui peut s'opposer, y compris du côté de ceux qui, comme nous, sont pour le maintien du libre choix à la commune, à cette évidente nécessité d'une approche globale du sujet. Personne. D'ailleurs, nous le clamons très clairement depuis le début, nous ne sommes pas contre le transfert de la compétence, mais contre l'obligation de son transfert. Ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle, dès le début, nous avions fait de ce sujet une question de principe fondamentale. Elle serait la preuve tangible de la sincérité des propos du Parlement et du gouvernement sur la confiance qu'ils accordent aux élus de terrain dans leur capacité à assumer leurs responsabilités. Il est malheureusement à craindre que la messe soit dite. Passons sur les anecdotiques reports successifs des dates et d'échéances, dont acte, tel que se présentent les choses aujourd'hui, la majorité présidentielle ne fait pas confiance aux élus de terrain. Elle couvre localement les élus ruraux de mots doux, mais ne ménagit pas là où il le faudrait, en déposant des amendements, en introduisant un rapport de force avec une administration hégémonique, forte de représentants dans chaque chambre et au sein même du gouvernement, pour s'assurer qu'aucune vague ne vienne perturber leur quiétude dans le dessaisissement de l'acteur local. Le gouvernement, quant à lui, en rendant obligatoire le transfert de la compétence, mais en rendant possible un retour de délégation à la commune, illustre parfaitement sa théorie du « en même temps ». Dès lors, chacun appréciera, il restera écrit dans les annales que malgré une opposition unanime contre l'obligation de transfert de toutes les associations de maires, toute géographie et diversité politique confondues, la majorité parlementaire se refuse à entendre. Quoi qu'il en soit, ce sera lourd de conséquences. On observe déjà une évolution dans le vocabulaire de nos concitoyens qui fait un distinguo entre les élus. Il y a les élus dits de terrain par opposition aux autres élus qui seraient hors sol. Merci, monsieur les députés. Comprenez les élus parlementaires, comprenez bien sûr les élus parlementaires qui n'ont jamais bénéficié de l'expérience d'un mandat d'élu local. Se pose alors la pertinence de l'interdiction totale et sans nuance, quelle que soit la strate de la collectivité du cumul des mandats exécutifs, mais n'ouvrons pas la boîte de Pandore. Voilà, moi, ça a été écrit par le bureau de la MRF sous la présidence de Vanik Berberian. Je crois que ça veut tout dire. Ça veut dire, et ça explique très clairement où en sont les choses aujourd'hui dans les négociations avec les maires des communes rurales et avec le gouvernement.
Brigitte ?
C'était la loi qui devait créer un consensus autour de la commune. Et puis, ben, je pense que c'est totalement foiré, quoi. Ouais. Voilà. C'est un terme un peu vulgaire, mais c'est ce qui me donne la première idée. Nos parlementaires qui essayent de se rapprocher de nous, enfin moi je vois, j'ai eu l'occasion de rencontrer notre député plusieurs fois, ils essayent de nous brosser dans le sens du poil, et finalement rien ne marche, quoi. Une fois qu'ils sont à l'Assemblée, ils me disent « Ah oui, mais vous savez, ça ne pourra pas le faire, ah oui, mais... » Bon, mais je dis « Mais quand on vous en parlera, vous direz, au moins Mme Cabirol, elle m'avait prévenu, elle m'avait... Mais bon, ça sert à rien, finalement. Donc, je suis déçue. Alors, je ne dois pas être la seule. Hein.
Alain, tu peux préciser, tu parlais de l'obligation de donner les compétences, mais pourquoi ça clash un petit peu sur la question de l'assainissement, parce qu'il y a déjà des compétences qui sont données aux intercommunalités. Pourquoi ce clash avec l'assainissement ?
Alors, sur l'assainissement, encore, c'est moins grave, parce que l'assainissement, aujourd'hui, il est beaucoup porté par les intercommunalités. Et je vois, moi, je prends la mienne, à la communauté d'Aglo, qui va prendre la compétence. Aujourd'hui, sur 38 communes, il n'y en a que 20 qui ont un assainissement collectif. Alors, que faire des autres ? Parce que, prenant la compétence, il va bien falloir faire les 18 qui restent. Or, Adour-et-Garonne n'a plus d'argent, le conseil départemental n'a plus d'argent.
Adour-et-Garonne, c'est l'État.
Oui, mais c'est pour ça.
Ça fait peur.
D'accord.
Voilà, mais il faut dire aux gens que c'est l'État,
Adour-et-Garonne. Mais c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y aura des communes qui ont fait leurs assainissements avec des subventions de l'ordre de 50 à 80%, et ceux qui restent, et bien sûr les communes rurales dedans, mais ceux-là, il faudra qu'ils le fassent avec leur fonds propre ou avec le fonds de l'intercommunalité. Voilà où le bas blesse, d'une part. Et après, derrière ça, il y a la question, bien sûr, des entreprises. Vous pensez bien que les entreprises se frottent les mains de savoir qu'aujourd'hui, il y a des syndicats de l'eau qui marchent bien, qui sont des régies ou qui datent de très, très, très loin, très, très loin, avec un prix de l'eau qui est très intéressant pour les populations. Eh bien, vous verrez, je donne mon pari aujourd'hui, d'ici 10 ans, avec cette loi qui sera transférée, bien sûr, ils vont le lisser sur le temps, mais dans 10 ans, le prix de l'eau aura doublé. Voilà, voilà ce qui ne me plaît pas.
Ben, le prix de l'eau, ça c'est sûr. Par contre, en ce qui concerne les assainissements, moi je suis en plein dedans. J'ai un assainissement qui n'est pas fait chez moi et qui a besoin d'être fait. Il traîne depuis 2007. Ça veut dire que depuis 2007, ben, on a été prioritaire en tout début. Et puis après, on est passé sous la pile parce qu'il a fallu faire toutes les villes, tous les côtés urbains, revoir toutes les stations d'épuration des villes et des centres-bourgs de plus grande importance. Et après, on est revenu vers nous. Ensuite, en 2011, il y a eu ben, les banques. Vous savez bien, là aussi, les banques nous ont laissé tomber. L'État est revenu à leur secours. Mais bon, c'est pas pour ça que ça les a rendus plus généreuses, même si les taux sont actuellement intéressants. On a quand même des problèmes. C'est des sommes faramineuses. Moi, j'ai un assainissement à faire. J'en ai pour 1 280 000 euros pour une commune de 520 habitants. Vous pouvez comprendre que quand même... voilà. Donc à un moment, moi, j'ai voté pour que mon système, pour que l'assainissement... Enfin, j'ai demandé à ce que l'assainissement soit pris par ma communauté de communes. Parce que c'était le seul moyen pour moi qu'elle prenne en charge les frais, les travaux et l'avancement des travaux. Parce que moi, je vais prendre des prêts, c'est vrai, je vais peut-être les avoir, parce que ça fait plusieurs années qu'on met de l'argent de côté pour justement faire l'assainissement, sauf qu'il me reste à charge quand même une grande partie. Et bah, quand vous voyez les prêts, même si c'est à 1,21%, 650 000 euros plus après une ligne de trésorerie pour une commune de 500 habitants et un budget de fonctionnement de 300 000 euros, vous comprenez bien qu'il y a quand même problème. Donc à un moment, moi, je serais pour que la compétence passe communautaire, parce que ça voudrait dire que on serait obligé de faire les travaux, parce qu'en France, l'eau est précieuse, tout le monde le dit, mais est-ce qu'on nous aide à faire quelque chose? L'agence de l'eau, elle finançait avant, c'est l'État. Alors le même État qui punit, parce que moi, régulièrement, je reçois un mot de la préfecture en me disant « Madame Cabirol, votre assainissement n'est pas bon, vous êtes pénalisable, je peux prendre la main sur vous, il faut absolument que vous n'êtes pas conforme, il faut faire l'assainissement ». Oui, mais à côté de ça, l'assainissement, c'est 1 200 000 euros, et de l'autre côté, l'agence de l'eau, ben, j'ai de la chance, moi, je vais peut-être passer juste à avoir un peu d'argent. Mais voilà, c'est peut-être... Donc à un moment, si tu veux... Alors ce qui me gêne aussi, je vais faire comme Alain, c'est le prix de l'eau. Parce qu'à un moment, quand tu as des grandes villes et des petites villes ou des gens qui ont un prix de l'eau correct, avec des régies qui sont pas gourmandes et d'autres qui le sont, si, bah, s'il y a un prix unitaire pour tout le monde, bah, y en a qui vont payer beaucoup plus, d'autres moins, ils seront contents. Mais là, ça va poser des problèmes aussi.
De gros problèmes.
Voilà.
Donc il faut quand même préciser c'est que les budgets d'assainissement sont des budgets à part.
Oui, mais ça tombe bien.
Ça me fait rire. Attends, parce que tu dis ça, OK, que normalement, c'est-à-dire que les abonnés doivent payer... Sauf qu'il y a beaucoup de communes, et ça, normalement, ce n'est pas autorisé. Il y a beaucoup de communes qui complètent au budget communal et qui donnent au budget assainissement pour pouvoir justement être comme il faut.
Oui, parce qu'il faut être comme il faut. C'est pour ça que je voulais préciser l'assainissement, qui est une chose, mais les eaux pluviales qui sont sur le compte de la commune. Et quand tu refais le réseau, c'est l'ensemble.
Exactement.
De
ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je voulais parler d'une chose importante et je vais vous faire le rapport des deux. Aujourd'hui, on a un syndicat de l'eau qui est départementalisé et qui marche bien et avec une eau qui est totalement accessible. Je vais faire le pendant de ce qui se passe en électricité. On est en train de vivre un moment historique. C'est-à-dire que le SDE 24, qui représente toutes les communes de la Dordogne, j'ai bien dit toutes, sauf Périgueux, bien sûr, mais il y a Bergerac, il y a les villes urbaines. Ce SDE s'apprête vendredi à signer la concession avec EDF et Enedis pour plusieurs raisons. Mais c'est important ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est historique, parce que ça va être signé pour 30 ans. Mais dans le contrat qui a été discuté, justement... C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez que vous avez plus de fil nu dans les campagnes faites par le SDE. Et dans ce nouveau contrat, Enedis s'engage à ce qu'il n'y ait plus de fil nu dans les villes urbaines d'ici 15 ans. Mais vous vous rendez compte de la somme qu'ils vont être obligés d'investir? Et ça, c'est profitable. C'est bien pour les populations. C'est bien pour les concitoyens parce que ça ne leur coûtera pas un sou. C'est comme ça qu'il faut faire à vélo.
D'accord. Je vous remercie tous les deux. On va souhaiter à tous nos auditeurs de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, malgré la situation. Et puis on se retrouvera tous au mois de janvier.
Oh ben on sera remonté comme d'habitude.
En tous les cas, oui, passez de bonnes fêtes, on sera remonté.
Voilà,
au premier
joyeux, surtout joyeux Noël aux enfants.
Ouais, c'est ça.
Merci de votre écoute.
Merci, au revoir.
À bientôt.